Studio Tamani, voici nos informations en français.
Au sommaire de cette édition, les pays du G5 Sahel tendent vers une uniformisation des tarifs de communication. La proposition a été faite hier par les experts en télécommunication du G5 Sahel à Ouagadougou, au Burkina Faso. La situation sécuritaire s'est davantage dégradée ces derniers jours dans la région de Ménaka. Face à cette situation, les autorités régionales ont décidé de redoubler d'efforts pour mieux sécuriser les populations et leurs biens. Présidentielle 2018, alors que des candidats contestent les résultats provisoires du premier tour proclamé par le ministère de l'administration territoriale, le président sortant, candidat à sa propre succession, salue un bon déroulement des opérations électorales. Les détails avec Mouhamadou Touré. Communiquer au même tarif dans tous les pays du G5 Sahel, dont le Mali, c'est l'objectif d'une proposition formulée par les experts en télécommunication du G5 Sahel hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette mesure, qui devrait être appliquée en mars 2019, permettra, selon les experts, de lutter efficacement contre le terrorisme en facilitant les renseignements, mais aussi améliorer le quotidien des populations. Les explications avec Amadou Nhammamaïga.
Les experts en communication du G5 Sahel ont suggéré au chef d'État de supprimer les frais d'itinérance téléphonique entre les pays membres de l'organisation. En clair, ils demandent l'application d'un tarif uniforme et non surtaxé de la communication internationale entre les 5 pays du G5 Sahel. En examinant la fiabilité de ce nouveau projet, les experts du secrétariat permanent du G5 Sahel ont conclu que cette nouvelle mesure permettra non seulement aux populations des pays membres du G5 Sahel de garder leur numéro en cas de voyage dans l'un de ces pays, mais aussi de communiquer au tarif local sans frais supplémentaires. Selon eux, cela va permettre également de promouvoir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans cette zone. Par ailleurs, les spécialistes estiment aussi que cette mesure va également avoir certaines répercussions sur les gains des opérateurs de télécommunications dans ces différents pays. Toutefois, ces mêmes experts indiquent également que les pertes pourront être rentabilisées par l'augmentation du flux de communications inter-État. Selon eux, tout le monde est gagnant parce qu'en supprimant les surplus, vous aurez une hausse du trafic de communication. Cette nouvelle mesure pourrait voir le jour dès mars 2019.
Pour des spécialistes des questions sécuritaires, il faut plus appréhender cette mesure sous l'angle de l'intégration plutôt que celui de la lutte contre le terrorisme. Selon eux, cette proposition traduit la volonté des autorités du G5 Sahel de faire de cette organisation un instrument de développement pour ses populations. Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études sécuritaires du Mali, est joint au téléphone par Hammadou Nhammamaïga.
Alors, ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est qu'il y a une volonté réelle de la part des autorités du G5 Sahel de montrer que cette organisation est autre chose qu'une organisation militaire. Donc, c'est aussi un projet de développement, un projet d'intégration pour les 5 pays de l'espace. Ça, c'est ce qu'il faut noter d'entrée de jeu. Maintenant, qu'est-ce que cette mesure peut concrètement faire pour dans la lutte contre le terrorisme? Pour rappeler quand même que c'est une mesure qui va entrer probablement en vigueur au premier trimestre de l'année prochaine et qui vient après la suppression du visa entre les 5 pays du G5 Sahel, en particulier les pays qui ne sont pas dans l'espace CEDEAO, donc la Mauritanie et le Tchad. Et que finalement, cette mesure participe de la même dynamique qui est la libre circulation des personnes. Alors, il ne faudrait pas seulement l'appréhender sous l'angle sécuritaire, il faudrait davantage l'appréhender sous l'angle du développement et de la volonté du G5 Sahel de participer à l'intégration de cet espace.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 88 11 11 ou 75 88 12 12. La situation sécuritaire s'est davantage dégradée ces derniers jours dans la région de Ménaka. Les braquages ont repris dans la ville et sur les axes routiers, particulièrement sur le tronçon en Songo-Ménaka, où plusieurs attaques ont été recensées au mois de juillet dernier. Face à cette situation, les autorités régionales ont décidé de prendre un certain nombre de mesures pour mieux sécuriser les populations et leurs biens. Compte rendu de notre correspondant sur place, Mohamed Ag Issa Feitan.
Lundi 30 juillet, alors qu'il se trouvait dans son véhicule un responsable du mouvement pour le salut de l'Azawad a été abattu et le véhicule enlevé. Quelques jours auparavant, la direction régionale de l'hydraulique, les logements de l'ONG IRC ont reçu la visite des hommes armés dans la nuit. Des ordinateurs et d'autres matériels ont disparu avec eux. Il faut ajouter à cela les braquages des camions sur la route Ansongo-Menaka. Devant la dégradation de la situation sécuritaire qui compromet dangereusement les efforts menés par l'ensemble des acteurs pour permettre de sécuriser les populations et leurs biens, le gouverneur de la région a pris un certain nombre de mesures. Il s'agit des patrouilles qui vont commencer à partir de 18h avec un couvre-feu dès 20h. À partir de 7h, plus de mouvements, ni de personnes, ni d'engins jusqu'à 6h du matin, sauf les hommes des médias, de la santé, de l'EDM et de la SOMAGEP. Ces mesures sont entrées en vigueur mercredi à 18h. Daouda Bourima Maïga, gouverneur de la région de Menaka.
Il y a des nouvelles désignations de la région et des populations de Menaka qui nous font mal à tous. Je ne vais pas revenir dessus, mais nous avons eu juste avant-hier un événement qui nous a tous fait mal, qui nous a tous marqués. Mais avant, il y a eu d'autres événements. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Cette rencontre est le lieu de dire voilà les problèmes, voici les solutions que nous proposons, voilà l'aide que nous demandons.
Malgré la présence des FAMA, des mouvements armés de la MINUSMA et de Barkhane, on peine encore à mettre fin à cette situation d'insécurité dont les principales victimes sont les pauvres populations qui n'aspirent qu'à la paix.
Et voilà un reportage de Mohamed Aguissa Feitan avec la voix de Juliette Koulibaly. Présidentielle 2018, des candidats contestent les résultats provisoires du premier tour proclamé par le ministère de l'administration territoriale. Il s'agit entre autres de Soumaïla Cissé, Aliou Boubacar Diallo et Mamadou Traoré. Selon ces candidats, cette élection a connu de nombreuses irrégularités. Ils dénoncent entre autres le bourrage des urnes par le candidat sortant. Le point avec Ibrahima Haran Diallo.
Le candidat Aliou Boubacar Diallo a dénoncé le bourrage des urnes dans certaines localités, leur enlèvement illégal, la violation de la procédure de dépouillement dans de nombreux bureaux de vote, l'achat massif de conscience ou encore les 20 000 bulletins déclarés nuls. Selon lui, ces irrégularités et ces faits ont largement contribué à amener certains candidats à des rangs qui ne reflètent pas la réalité. Dans une déclaration, le candidat de l'URD rejette ces résultats. Selon Soumaïla Cissé, ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens.
Nous savons tous que tout a été fait par le gouvernement pour empêcher la libre expression de la volonté du peuple lors du scrutin du 29 juillet. Je l'ai dit haut et fort, ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques, à la mobilisation de tous pour défendre l'expression libre du suffrage du peuple contre les prédateurs et les fossoyeurs de la démocratie.
Mamadou Traoré, candidat du parti Union, est aussi sorti du silence. Selon lui, cette élection a connu des irrégularités. Il demande le concours des observateurs nationaux et internationaux pour éclairer la situation.
Nous avons remarqué que nous avons eu des voix dans les localités où nous ne sommes pas représentés. Et également, nous avons été privés des voix où nous sommes fortement représentés par nos familles, les membres du parti. J'ai vu à Kalabankoro. J'ai ramassé les ordures à Kalabankoro. C'est jamais possible que j'ai 0% à Kalabankoro. Il y a des bureaux de vote où les membres du parti ont voté. On a retrouvé 0 voix là-dedans. Nous demandons le concours des observateurs nationaux et internationaux pour que nous puissions au mieux être éclairés dans cette situation.
La seule candidate, Kanté Djilabandjaï, qui faisait partie également de la coalition des 17 candidats qui ont dénoncé des irrégularités des élections, décide de soutenir le candidat sortant Ibrahim Boubacar Keïta pour le deuxième tour.
En dépit de ces irrégularités et contestations soulignées par la majorité des candidats au premier tour, le président sortant, candidat à sa propre succession, a salué hier le bon déroulement des opérations électorales. Selon lui, sa victoire au premier tour confirme qu'il est aux yeux du peuple le choix de la paix et du progrès. Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du parti Rassemblement pour le Mali RPM, au micro de nos confrères de l'ORTM.
C'est une belle première victoire, mais elle n'est pas que seule mienne. Cette victoire, c'est la victoire du Mali qui avance, qui vient de loin et qui ira loin, Inch'Allah. C'est la victoire de l'optimisme, la victoire du rassemblement contre la division, la victoire de la volonté contre le défaitisme, la victoire de l'action contre l'apathie, la victoire de l'espoir contre la terreur. C'est la victoire de toutes celles et ceux qui connaissent notre pays et croient en son grand destin. Mes chers compatriotes, pendant ce scrutin, vous avez aussi donné une leçon politique à l'ensemble de ceux qui servent ou aspirent à servir le Mali. Vous nous avez jamais dit que vous servir ou aspirer à vous servir exige, au lieu de la vulgarité, l'humilité, au lieu de l'opportunisme, la loyauté, en lieu et place des promesses irréalistes, l'effort, le travail sérieux, en lieu et place de la calomnie, la vérité.
Les organisations de la presse malienne ont exprimé cet après-midi leur mécontentement suite à la fermeture de la radio Renouveau FM depuis mercredi dernier par le gouverneur du district de Bamako. Les responsables de ces organisations exigent la réouverture de la dite radio dans les plus brefs délais.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, la population de Tessit s'inquiète. Selon des habitants de la commune, aucune pluie n'est tombée dans la localité depuis presque 3 semaines. L'herbe qui a poussé commence à sécher dans certains endroits. Les populations indiquent qu'elles ne souhaitent pas revivre la sécheresse de la saison dernière. Plus de 100%, c'est le résultat des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite tenues du 20 au 23 avril dernier dans la région de Ségou. Ces chiffres ont été communiqués hier 3 août 2018 par les membres du comité régional de pilotage. Près de 100 000 enfants ont été vaccinés lors de ce deuxième passage. La campagne a été financée à hauteur de 84 millions de francs CFA par l'OMS, l'UNICEF et leurs partenaires. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après le spot, le magazine Question A.